Vous écoutez
RMC.
RMC.
6h-7h.
Votre jardin. François Sorel.
Patrick Mulan.
Et nous y sommes, il est 6h08 avant toute chose. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Je suis très heureux, sincèrement, de vous retrouver encore une fois pour ce week-end. Vous le savez, le week-end des experts, le samedi, le dimanche, sur RMC, 6h, 10h. Ils sont là, les meilleurs experts de France, vous accompagnent, répondent à vos questions. Avec demain, juste après De quoi je me mêle, entre 6h et 7h, 3h d'automobile, avec Jean-Luc Moreau. Tout à l'heure, Raphaël Grabli nous rejoindra pour la vie numérique entre 9h et 10h. Et on gérera avec lui le rapport parfois fort des ados avec leur smartphone et surtout les réseaux sociaux. Vous verrez que parfois, il y a des, on va dire, des abus qui sont incroyables. Et puis, bien sûr, toutes vos questions vie numérique à partir de 9h tout à l'heure. Avec le docteur Christian Requier, on préparera le meilleur petit déjeuner équilibré. On évoquera le calcium, indispensable. Où trouve-t-on du calcium dans les aliments? Voilà. Et pourquoi le calcium est-il si important pour notre corps? Tout à l'heure, dans la maison avec Christian PC, on évoquera les extensions pour télétravailler, mieux vivre à la maison. Voilà, ça aussi, c'est une conséquence de cette épidémie. On travaille de plus en plus à la maison. Il faut qu'on se trouve un petit coin ou même un grand coin. Vous verrez que tout à l'heure, Christian nous donnera des conseils précieux. Et puis, bien sûr, vos questions bricolage, maison déco, tout à l'heure, entre 7 et 8. Et pour débuter, vous le savez, c'est le jardin. Et le jardin, c'est avec Miu Miu, Patrick Mulan. Bonjour, Patrick.
Bonjour François, bonjour à tous, très très bienvenue dans nos jardins qui sont beaux mais qui ont soif.
Et voilà, voilà. Et ça va pas s'arranger visiblement puisqu'on vous retrouvera tout à l'heure pour la météo du jardinier, voilà. Et ça s'annonce hot.
Alors hot, oui.
Oui, on va dire ça. Hein. L'été joue les prolongations.
Mais non, nous sommes encore.
Nous sommes encore en été, c'est vrai.
Non, non, l'été indien comme on appelle, ça arrive en octobre quand ça arrive. Là, on a besoin d'eau. Alors on aura un peu d'eau sur la partie atlantique en fin de semaine prochaine, mais le reste du pays, c'est chaud, c'est beau, et c'est barbecue peut-être ce dimanche.
Et bien voilà, on fera le point tout à l'heure et quelles conséquences pour le jardin, bien sûr. Ce sera aux alentours des 6h40, on va dire, 6h45. On va aussi tout à l'heure évoquer le lilas des Indes, qui est un petit arbre très intéressant, Patrick, vous allez nous le faire découvrir tout à l'heure.
Et oui, parce qu'en même temps, il y en a encore plein qui sont en fleurs en ce moment. Il n'y a pas tellement d'arbres petits à fleurs pour l'été. Et là, c'est super.
Et bien voilà, on découvrira donc le lilas des Indes. Dans quelques instants, vous nous donnerez des conseils pour avoir de belles plantes de décoration saisonnière. Quoi choisir en ce moment, tiens?
Oui, parce que quand même, l'été, même si on vit nos derniers jours d'été, il commence à être un peu en pente douce, comme on dit. Donc l'automne va arriver. Et donc, avec l'automne, on peut avoir tout un décor très intéressant pour continuer à profiter de son jardin. On ne sait jamais. Et peut-être qu'on aura beau temps jusqu'à novembre. Donc, il faut le faire.
Ouh là là. Bah écoutez, on verra bien. Et bien sûr, vos questions dès maintenant. Vous voulez joindre Patrick Mulan? Les conseils précieux de notre jardinier sont là. Vous pouvez le questionner au 32-16. Le standard RMC Amina est prête, attend vos appels. Vous avez aussi le smartphone Direct Studio. Via votre mobile, vous pouvez nous laisser un message avec votre numéro de téléphone. On peut vous rappeler. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. Et on attaque avec vos questions, bien sûr. Et c'est Bastien qui ouvre le bal en ce samedi 12 septembre. Bonjour Bastien.
Oui, bonjour messieurs. Comment allez-vous?
Nous sommes là, nous sommes en France
bien.
Et nous espérons qu'il en est de même pour vous.
Ah, très bien, toujours un plaisir de vous entendre le samedi matin dans le travail.
Eh bien écoutez, c'est un plaisir partagé, Bastien. Vous nous appelez d'où?
Alors j'appelle de Saint-Raphaël dans le Var.
Ah oui, ça c'est pas mal aussi. Hein.
Ouais, c'est très difficile la vie là-bas.
Ouais, bah oui, Saint-Raphaël, le Var, tout ça c'est compliqué, la mer, ouais, la plage, compliqué. Le soleil...
Donc, ouais. C'est ça, exactement. Donc j'habite en bord de mer et je vous avais déjà téléphoné parce que j'ai un petit balcon, enfin un balcon d'une vingtaine de mètres carrés, très très fleuri. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de plantes, j'en ai une cinquantaine. Et je dois dire que j'ai un peu tout mis ensemble, donc il y a un peu de tout. Il y a des plantes grasses, des plantes vertes, du lierre, des cactus, il y a un peu de tout. Et je vous avais déjà appelé début d'été en concernant les cyarides. J'étais infesté de cyarides, donc j'ai réussi à m'en séparer, à les éliminer. Le problème, c'est que chaque année, j'ai une invasion d'insectes en tout genre. Donc cette année, j'ai vraiment eu tout. J'ai eu cochenilles, araignées rouges. Là, les derniers en date, c'était les caterpillars, les chenilles vertes qui mangent tout. Et j'ai toujours aussi un problème récurrent de trips qui arrive le mois d'août. Donc les trips qui aiment nécroser mes feuilles, les feuilles de mes arômes et de mon curcumin. Si j'ai planté du curcumin aussi, mais tous les ans, les trips se mettent dessus et en quelques semaines, même pas, les feuilles elles se nécrosent et la plante ne ressemble plus à rien. Mmh. Donc je suis allé chez le fleuriste qui m'a donné un produit à base de soufre qui m'a l'air assez toxique.
Non, c'est pas toxique, mais ça sert à rien.
Ça sert à rien et non. Ça sent très mauvais en plus.
Non, mais oui, mais le soufre, ça sent mauvais, mais c'est pas pour autant que c'est. Enfin, c'est accepté en agriculture biologique. Mais le soufre, ça peut vous aider à bloquer les acariens. C'est déjà ça. Mais sur les trips, ça sert strictement à rien parce que ce sont des insectes piqueurs-suceurs. Et le soufre, bon, normalement, on l'utilise surtout contre l'oïdium, c'est-à-dire la maladie du blanc. Qui se développe un peu en cette saison d'ailleurs, il faut bien dire.
J'ai vu soufre dedans, j'ai vu soufre, potassium, sel, et c'est un spray quoi, sans spray.
Oui, mais de toute façon, on trouve essentiellement des produits en spray aujourd'hui. Le problème du trips, c'est sa prolifération, c'est aussi le fait que la plupart du temps, il est surtout à la face inférieure des feuilles. Alors c'est un tout petit insecte hein, parce que ça mesure rarement plus de 2 mm. Enfin on va dire que ça, quand on regarde ça, ça ressemble un peu à un grain de riz hein, quand on regarde pas à la loupe. Parce que c'est si ça, on regarde à la loupe, petit, on voit qu'il y a des petites ailes avec des comme des petites plumes, c'est assez rigolo. Et puis c'est ce qui est amusant, enfin si on peut dire, c'est de regarder comment il marche parce qu'il saute en marchant poum 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 comme ça.
Tiens.
Et bon, il peut voler. D'ailleurs, ça, on peut déceler la présence de trips en secouant les feuillages. Et si vous voyez quelques envols comme cela, eh bien vous savez que vous en avez. Alors le problème. Le problème, c'est que, je le dis très souvent, notre cher Joël Labbé, sénateur de son État, nous a tout retiré, les produits qui pouvaient éventuellement être efficaces contre ces petites bêtes. Et donc, aujourd'hui, eh ben, on n'a pas grand-chose. Alors, au niveau produit, je peux strictement rien vous conseiller d'être vraiment efficace. Il existe un antipuceron naturel qu'on appelle le pyrètre, qui est donc un extrait d'une sorte de chrysanthème africain et qui a un effet vraiment choc sur les insectes. Mais il faut vraiment que le produit rentre en contact. Donc, ce n'est pas ultra facile à vraiment utiliser. On en trouve donc dans le commerce. Alors, attention, le pyrètre naturel, même s'il est naturel, il n'est pas du tout sélectif pour l'ensemble des insectes et il tue aussi bien les bons que les mauvais. Alors, ce que l'on essaye de faire quand on a des attaques comme ça, et a priori, on va dire même sur l'ensemble de votre balcon, puisque vous avez pas mal de problèmes parasitaires.
Beaucoup de problèmes parasitaires.
Dès que on a une plante qui est attaquée, il faut l'isoler.
Okay.
Vous allez aussi, puisque le plus facile, c'est un peu comme les histoires de zones d'infestation. Quand on détruit la zone d'infestation, on limite ses possibilités d'extension. Donc si vous taillez assez sévèrement les plantes qui ont été envahies par les insectes ravageurs, donc en éliminant toute la partie où ils se trouvent, eh bien vous allez réduire la possibilité de développement. Alors il faut savoir que les trips, on les piège assez facilement avec des plaques, alors ou jaunes ou bleues. D'habitude, c'est jaune, c'est plutôt aussi pour ce qu'on appelle les mouches blanches chez les alorodes, mais là, ça marche aussi bien au jaune ou bleu.
Elles sont attirées par ces couleurs
et qui sont enduites de glu. Ça, on met ça beaucoup dans les serres.
Comme pour les cyarides, en fait.
Oui, tout à fait, ça marche. Mais vous savez, ces pièces jaunes qui ont l'air de rien, ça vous colle pas mal d'insectes qui peuvent être embêtants.
C'est vrai que j'ai jamais essayé encore.
Alors après, ce que je ferais, moi. Alors, c'est moins facile sur le balcon qu'au jardin. Mais c'est quand on a des plantes qui sont un peu envahies. Alors, ça marche aussi sur les pucerons, ça. C'est de...
Enfin, j'en ai énormément, des pucerons sur les capucines, etc.
Sur les capucines, c'est pas grave, parce que de toute façon, il y en aura tout le temps. Mais on les déloge assez facilement avec un jet puissant, un jet d'eau. Et ça, donc, en ce moment, comme on a beaucoup de température, que le temps est sec, etc. Doucher les plantes, ça peut que leur faire du bien. Et en même temps, vous allez pouvoir un peu noyer ces ravageurs ou les déloger. Voilà. Donc, par exemple, sur les plantes d'intérieur, bah, vous les passez sous la douche, par exemple. Ça arrive assez souvent hein, qu'il y ait. Donc,
alors... Et le pyrètre, il se présente sous quelle forme ?
Ah, vous allez le trouver en bombe ou vous allez le trouver en produit liquide à mélanger avec de l'eau dans un pulvérisateur.
Les deux sont tout aussi efficaces.
Parce qu'en fait, là, si vous voulez, le produit qu'ils m'ont donné, le soufre, j'ai vu que c'était aussi contre les cochenilles, soi-disant, parce que c'est
là
dessus.
Non,
problème, c'est que j'en ai mis sur mes plantes grasses qui étaient mangées par les cochenilles, mais ça me les a tuées.
Oui. Alors, ça aussi, il faut savoir que les produits en bombe, par exemple, ne sont pas supportés par un grand nombre de plantes. Alors, ce que vous pouvez essayer de faire, mais là, c'est pareil sur les cactus et les plantes gras, c'est pas recommandé parce qu'ils aiment pas ça, c'est d'utiliser du savon noir liquide. Ça fait aussi un bon insecticide sur les insectes piqueurs suceurs. Pour les cochenilles, bon, bah, vous avez mon fameux mélange anti-cochenilles. Vous pouvez regarder sur Internet, sur News Jardin TV, j'ai fait un énorme article là-dessus avec la vidéo, etc. pour la cochenille. C'est un mélange que vous pouvez utiliser pour beaucoup d'insectes, mais ça n'est pas supporté par les cactus.
Et voilà. Merci beaucoup Bastien. Bastien qui avait pas mal de questions à poser à Patrick. N'hésitez pas, hein, Patrick Miolan est là pour ça le samedi matin. Vous pouvez à tout moment le joindre au 3216 ou via l'appli RMC Direct Studio. Patrick ?
Oui.
On retrouve le conseil.
Je vais vous donner un dernier conseil avant que vous partiez.
RMC, l'astuce jardin de Miu Miu.
J'attends ton conseil.
Ne partez pas tout de suite, l'émission ne fait que commencer, on est là jusqu'à 7h avec Patrick. Patrick, quel plan de décoration saisonnière choisir en ce moment ?
Bah écoutez, on se rend compte que certaines plantes annuelles ont souffert. Par exemple, nous au jardin, les pétunias, là, ils sont vraiment, vraiment en fin de vie, on va dire. Et il serait bon de remplacer ces végétaux qui commencent à être moches par des plantes qui sont beaucoup plus tardives au niveau de leur intérêt et qui commencent à être bien présentes dans les magasins.
Alors l'idée, c'est de se faire plaisir et d'acheter des plantes qui vont pouvoir nous créer un décor de saison, en fait.
Exactement. Alors pas plus tard qu'hier, on était en jardinerie. D'ailleurs, j'ai été assez étonné de voir une très 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 grande jardinerie de la région parisienne avec... Les rayons sont quasiment vides.
Ah bon ? Tiens.
Vous savez, d'habitude, ouais, c'est
oui, blanc, bien sûr, etc. Bien sûr,
alors, en végétaux, ça va. Ouais. Alors, tout le reste, vous
d'accord.
avez...
Tous les accessoires, les
ah,
choses
oui,
comme
alors,
ça.
Soit les industriels n'ont pas pu reprendre leur production correctement, mais ça fait vraiment bizarre. On voit quand même qu'on est dans une année un peu particulière. Mmh. Alors, heureusement, les horticulteurs ont bien travaillé et il y a quand même beaucoup de plantes. Alors, il y a quoi ? Il y a des asters, il y a des bruyères d'automne, il y a des chrysanthèmes massifs, des cyclamens, des petits pommiers d'amour, des petits piments, des sédums, etc. Donc il y a plein de plantes que l'on vous propose, qu'elles soient à fleurs, à feuilles décoratives ou même à fruits décoratifs que vous pouvez acheter maintenant.
Alors Patrick, ne peut-on pas malgré tout reprocher à ces plantes d'automne d'être seulement saisonnières et dépérir dès qu'il va faire froid ?
Alors évidemment, par définition, les saisonnières sont des végétaux qui ne vivent qu'une saison. Là, on va dire que je le sens bien.
D'accord. Mais oui.
Depuis quand même plusieurs années, on a généralement quand même l'été qui se prolonge assez longtemps en saison. Et ces saisonnières qui vont effectivement être détruites, alors elles sont pas détruites au premier gel, elles sont détruites à moins 5 degrés. L'année dernière, par exemple, dans beaucoup de régions, moins 5 degrés, on les a pas eues.
Et oui.
Donc vous pouvez... Il y a un petit côté, je joue au casino.
Allez,
là.
Voilà, on peut espérer ne pas avoir un hiver froid.
Mais au moins, vous allez avoir ces plantes jusqu'aux premières gelées. Et ça, c'est quand même sympa de rentrer chez soi avec... quelques plantes qui sont en toute saison décoratives, et celles dont je parlais tout à l'heure, bon bah voilà, ça vous fait tout de suite un effet lumineux, et moi je trouve ça quand même bien. Oui.
Alors parmi toutes les plantes d'automne, il y a les chrysanthèmes en premier. Est-ce qu'on peut raisonnablement utiliser ces plantes dans un jardin sans que cela fasse trop Toussaint ? Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas trop ça. Hein.
Oui, alors, faut pas voir le chrysanthème uniquement comme cette plante de cimetière avec ses grosses fleurs en boule, des plantes qui font quoi, 50-60 cm de hauteur. Non. Aujourd'hui, il y a une gamme énorme de chrysanthèmes qui ressemblent tout simplement à des marguerites colorées, oui, qui ont des fleurs simples, qui sont dans une couleur très tonique. Il y a des jaunes très vifs, il y en a même qui sont blancs et roses. On a acheté ça hier, des blancs et roses. Boum, ça vous fait quand même une belle couleur d'été. Donc ça, vraiment, vraiment, c'est sympa. Il y en a aussi des tout petits qui sont avec des petits pompons et qui sont vraiment agréables. Donc ne voyez pas le chrysanthème
comme le symbole
comme
en fait du deuil. Oui,
prenez plutôt,
ça va plus loin que ça.
Vous savez, on va changer le nom. Je vous propose, on va dire des marguerites d'automne.
Marguerites d'automne.
Il y a d'autres plantes qu'on appelle aussi marguerites d'automne, les héléniums, les échinacéas, tout ça. Mais les vrais chrysanthèmes qui fleurissent en ce moment, qui sont trapus avec des petites fleurs, allez, on oublie chrysanthèmes, on les garde pour la Toussaint. Achetez-vous des marguerites d'automne. Faites-vous plaisir.
Allez, on enchaîne avec une plante que vous aimez beaucoup, ce sont les cyclamens.
Écoutez, vraiment, parce que s'il y a une vraie vedette pour l'automne, je dirais presque même l'hiver, vous voyez, eh bien, c'est le cyclamen. Alors, c'est pas trop bon marché. Un pot de cyclamen, hier, ça coûtait juste en dessous de 4 euros. Et il en faut quand même pas mal pour avoir un effet puissant, si vous voulez. Mais cette plante, si elle est légèrement abritée, elle va fleurir, vraiment jusqu'à moins 5 degrés. Par exemple, si vous avez juste un petit appartement avec une petite fenêtre pas trop mal exposée, eh bien, mettez une petite jardinière de cyclamen et vous pourrez peut-être en ville. Tiens, d'ailleurs, je vous le conseille, vous, François. Mm-hmm. Vous allez, on prend presque le pari, vous le faites. Et je pense que pendant tout l'hiver, vous aurez des fleurs.
Allez, on va prendre le pari, tiens.
Attendez, pour une plante, une jardinière à 10-12 euros.
Ça vaut le coup quand même, voilà. Bien sûr. Quelles sont les fleurs, et ça sera le mot de la fin pour ce rendez-vous, les fleurs qui sont vraiment durables actuellement?
Vous avez quand même des vivaces. Bon, alors, ça dépend ce qu'on appelle durable. Est-ce que c'est durable en longueur de floraison? Est-ce que c'est durable en temps de vie? En temps de vie, les vivaces sont durables. Par exemple, les anémones du Japon qui fleurissent maintenant et qui vont fleurir quoi? 3-4 semaines, elles reviendront l'année prochaine. Donc ça vous évite d'en acheter tous les ans, bien entendu. Les bruyères. Alors attention au niveau des bruyères. Vous avez deux types de bruyères qui sont vendues en cette saison. Vous avez des bruyères très spectaculaires qui font à peu près, on va dire, 30-40 cm de hauteur avec des fleurs vraiment bien pétantes, etc. Et elles sont appelées Erica gracilis. Ce sont des plantes originaires d'Afrique du Sud qui doivent être considérées comme les chrysanthèmes ou les cyclamens dont on parlait précédemment, comme des saisonnières, donc qui vont périr avec le gel. En revanche, vous avez des bruyères qui sont des calunes ou qui sont des Erica carnea, donc pas gracilis, qui sont des bruyères rustiques. Et là, vous allez pouvoir les conserver plusieurs années. Alors là, plutôt dans de la tas de bruyères, et je dirais plutôt dans un endroit mi-ombragé. Bon, elles sont moins spectaculaires, du moins les calunes, mais il y en a quand même pas mal de couleurs en ce moment.
Il est 6h26, Patrick. On va revenir dans un instant et on va découvrir le lilas des Indes.
Oui.
Un petit arbre que vous aimez beaucoup, vous allez nous expliquer pourquoi. Et puis bien sûr, vos questions jardin se poursuivent. À tout moment, vous pouvez joindre notre jardinier, Patrick Mulan, qui répond à toutes vos questions en direct. Le 32-16, le standard RMC, l'appli RMC Direct Studio. Si vous nous joignez par l'appli, votre question et votre numéro de téléphone, s'il vous plaît. Comme ça, on vous rappelle dans la foulée.
RMC. Jusqu'à 7h. Votre jardin, François Sorel,
Patrick Mulan.
On a ressorti les disques poussiéreux de la discothèque des RMC de l'époque. Mais est-ce que vous l'avez reconnu, lui?
Pas du tout.
Alors, mais Kevin, monte un peu le son pour qu'on l'entende. Très connu. On est d'accord. Chanteur connu, bon, alors voilà, pour les jeunes un peu moins, mais il a quand même marqué la variété française.
Frédéric François?
C'est Jérôme.
Ah, c'est dingue. Jérôme.
Mais je pense qu'il était tout petit à l'époque. Enfin, il n'a jamais été très grand, hein, c'est Jérôme, mais je pense que il était tout jeune. Et oui, alors pourquoi on parle de cela, des lilas? Parce que vous allez tout nous dire sur le lilas des Indes, Patrick, qui est un très intéressant petit arbre à floraison tardive. C'est pour ça que vous vouliez nous en parler.
Oui, alors ce n'est pas un lilas, hein. Il faut bien le dire, il a un nom.
Le lilas des Indes.
Alors, on dit lilas des Indes en français, on ne devrait pas. On ne devrait pas, parce qu'on devrait plutôt l'appeler lilas d'été, parce qu'il y a une autre plante qui s'appelle Mélia Azedarach. Mélia, c'est un arbre vraiment du midi de la France qui, lui, porte ce nom vernaculaire de lilas des Indes. Et pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas appeler donc notre lilas, qui s'appelle en fait l'Agerstremia indica, lilas des Indes? Parce qu'en fait, il vient de Chine, tout simplement.
D'accord.
Donc, voilà.
Et c'est un savant suédois qui l'a baptisé, hein, c'est
oui,
ça?
Oui, alors c'est le fameux Carl von Linné, hein, du XVIIIe siècle, qui a nommé une quantité de plantes et d'animaux. C'est lui qui a inventé d'ailleurs la classification binominale, un genre-espèce, et qui a dédié tout simplement à la mémoire d'un copain. C'était très, très souvent,
ouais,
comme,
souvent
ça,
comme ça
à l'époque.
Ouais.
Et donc, il y avait un homme d'affaires qui s'appelait Magnus Lagerström, qui était de son époque, puisqu'il est...
Et voilà. Il est passé à la postérité, lui.
Voilà, avec le Lagerströmia. Oui.
Est-ce que, alors, bon, c'est pour ça qu'on a trouvé un nom plus facile à mémoriser, hein, c'est le lilas des Indes. Hein.
Vous pouvez dire Lagers aussi, hein.
D'accord. Alors,
un Lagers ou un Lagers, comme vous voulez.
Très bien. On peut dire donc tout cela. Est-ce que vous pouvez nous décrire, par exemple, très rapidement, cet arbre? À quoi ressemble-t-il?
Bah oui, parce qu'en fait, ce qui est intéressant pour ceux qui ne le voient pas, c'est de savoir que c'est un arbre, alors caduque, hein, il faut le dire quand même, hein, de 5 à 6 mètres de haut. Donc c'est vraiment très très bien ciblé pour un petit jardin. Feuilles ovales, opposées, coriaces. Alors ça c'est étonnant, d'ailleurs quand on touche les feuilles, on dirait une plante à feuillage persistant. Ça va faire naturellement plutôt un buisson au départ, mais si on le taille correctement, il peut vraiment vraiment nous faire un petit arbre dont l'écorce est absolument sublime. Alors on le cultive surtout quand même pour la floraison. Les plus précoces fleurissent dans le courant juin. Les plus tardifs commencent seulement à fleurir maintenant. Et donc, on peut avoir tout l'été des fleurs de Lagerströmia. Alors, ça ressemble effectivement à une thyrse de lilas. La thyrse, c'est une inflorescence qui est une sorte de grappe conique, si vous voulez, avec oui, des fleurs sur le lilas des Indes qui sont très chiffonnées, elles sont assez drôles comme fleurs individuellement, avec un gros cœur bien jaune. Donc vous êtes dans des couleurs qui vont du blanc au rouge très foncé, même cramoisi, en passant par toutes les nuances de rose. Donc c'est assez spectaculaire avec ces étamines bien jaune d'or.
Alors en plus, ce lilas des Indes apprécie la période que l'on vit actuellement, hein, parce que je crois qu'il aime bien les étés longs et chauds.
Ah oui, il lui faut
donc
absolument
ça. Donc là, c'est
ça.
Parfait pour lui, hein, c'est ça?
Tout à fait, mais, et en plus, il faut vraiment le mettre en plein soleil. C'est une plante qui a besoin de beaucoup de lumière pour s'épanouir.
Beaucoup d'eau aussi ou pas?
Alors, ça résiste pas mal à la sécheresse, mais dans ces cas-là, comme toutes les plantes qui résistent à la sécheresse, ils se mettent dans une semi-dormance et donc il va beaucoup moins fleurir. Donc si vous voulez quand même que votre Lagerströmia vous donne satisfaction et surtout une belle floraison, bah, faut l'arroser quand même régulièrement. Alors attention aussi, il aime pas beaucoup être planté en bord de mer. Les embruns, ça lui plaît,
ouais,
pas,
ça
trop,
lui plaît pas trop.
Et les vents dominants non plus. Donc dans un jardin, un petit coin un peu abrité, plein soleil, et vous allez avoir vraiment ce qu'il vous faut.
Quel sol préfère-t-il?
Il n'y a pas vraiment de problème au niveau du sol. Alors, pas trop calcaire, évidemment. Un sol plutôt un peu enrichi en humus. Alors, je dirais quand même qu'au niveau des régions, parce que c'est ça quand même qu'il faut limiter, pourquoi est-ce qu'on n'en voit pas partout? Parce que quand même, comme il est assez tardif, alors même d'ailleurs, un petit conseil en passant. Si vous achetez, mettons cet automne, ou maintenant même un Lagerströmia, et qu'au printemps prochain, vous voyez rien qui se passe, vous ne vous inquiétez pas.
On le laisse tranquille.
C'est une des plantes, voire la plante la plus tardive
ah oui,
qui existe.
D'accord.
Et même moi, j'ai un très beau bonsaï de Lagerströmia. Tous les ans, je me dis, il n'a pas supporté l'hiver. Il va pas démarrer. Mais franchement.
Et puis d'un coup, paf.
Ah oui, mais parce que ça peut démarrer seulement fin avril.
Ah oui.
Alors
d'accord,
que tout le monde est pratiquement en feuille, lui, il a même pas pointé ses
bourgeons. Un peu paresseux.
Bah c'est parce qu'en même temps il a une décalage.
Oui comme il est décalé
très tard.
Ouais. Voilà, donc il commence plus tard.
Voilà, il commence plus tard. Alors ce que je voulais dire c'est quand même qu'au niveau des régions, tout ce qui est, on va dire, au-dessus du nord de Paris et à l'est du nord de Paris, faut éviter. Parce que les gelées tardives, ça lui plaît pas. Les même si on dit qu'un Lagerströmia adulte ça tient à moins 20 degrés, ce dont j'ai un peu de doute quand même, parce que moi j'en ai quand même perdu au jardin chez nous autour de moins 12. Ça dépend des conditions. Bien on va sûr, dire que bon, quand il y a des gels réguliers autour de moins 10 degrés,
il aime pas.
Vous évitez.
Et voilà.
Vous évitez. La région la meilleure, c'est celle de la pépinière qui a travaillé Sagerstrémia depuis de très très nombreuses années. C'est Desmartis, est une pépinière à Bergerac. On est en Dordogne. Et là, vous êtes dans la région optimale, vraiment, du Lagerstrémien.
Est-ce qu'il faut le tailler, cet arbre?
Alors, oui. Et non seulement il faut le tailler,
sortez
mais il faut le tailler tous les ans. Tous les ans, pourquoi? Parce qu'il fleurit à l'extrémité des tiges de l'année. Donc, si vous ne le taillez pas, vous allez avoir des grandes tiges qui vont monter, puis vous aurez des fleurs tout là-haut qui ne vont pas vraiment avoir l'effet spectaculaire que vous souhaiteriez.
Oui, il n'y aura pas une densité.
Alors, il n'y aura pas la densité, et puis surtout, les fleurs, elles ne seront pas à votre niveau. Donc, tous les ans, vous allez rabattre, quand on dit rabattre, ça veut dire tailler sévèrement, toutes les tiges de l'année, allez, à environ 5 cm de longueur. Ça veut dire autour de 2 à 3 yeux, de 2 ou 3 bourgeons, que vous laissez sur la plante. Ça fait tomber du bois. Alors, on va le faire dans les régions au climat doux, vous pouvez le faire dès novembre, et dans les régions un petit peu plus fraîches, vous pouvez le faire simplement vers la fin février, début mars, juste avant le démarrage de la végétation.
Très bien. Est-ce que ce lilas des Indes est un arbre facile à planter, qu'on peut un peu planter partout, dans le jardin, même sur une terrasse?
Alors, sur une terrasse, c'est tout à fait possible, parce que, comme je disais, le port naturellement buissonnant de la plante est favorable à une culture en bac. Alors, il existe d'ailleurs des cultivars, donc des variétés horticoles qui sont plus compactes que d'autres. J'en ai même vu, parce que je suis allé dans cette pépinière d'Esmartis il n'y a pas longtemps, j'ai découvert des... Non, mais d'Allégastrémia horizontaux, rampants.
Ah oui, tiens.
Et ça, c'est hyper sympa, parce que là, vous n'avez même pas besoin de tailler ceux-là. Ils prennent naturellement une forme de tapis. Alors, ils ne vont pas rester à 30 cm, ils vont monter jusqu'à 80 cm, mais sur un talus, ou même en bac, là, c'est vraiment sympa. Et donc, il y a des grands Lagerstrémiens, il y en a des plus petits, il faut bien choisir la variété, mais dans un bac de 30 à 40 cm de côté, eh bien, vous pouvez réussir très bien un Lagerstrémia dans un mélange de terre de jardin et de terreau.
Très bien, et ça s'achète un peu partout, on va dans les jardineries.
Oui, alors les jardineries de l'Île-de-France, en ce moment, ils n'en ont pas vraiment, ils les présentent plutôt dans le courant, fin de printemps, ce qui est un peu dommage, mais je pense que peut-être qu'il y en aura qui veulent à la suite de cette émission-là. Je vous incite, mes amis, à mettre du Lagerstrémia chez vous.
Dans un instant, nous allons retrouver Pierre Caribe, qui habite dans les Alpes de Haute-Provence. Et forcément, quand on est dans les Alpes de Haute-Provence, on a des oliviers. Il en a une vingtaine d'oliviers. Et il a peur que la mouche de l'olive fasse encore des ravages. Il aimerait bien vous poser quelques questions sur ce sujet. Le 32-16, l'appli RMC Direct Studio, on va retrouver Pierre. Et puis juste après, ce sera la météo du jardinier, le coup de cœur de Patrick. N'hésitez pas à nous joindre. À tout de suite.
Jusqu'à 7h. Votre jardin, François Sorel,
Patrick Mulan.
Voilà, nous sommes là avec Patrick Mulan pour le jardin jusqu'à 7h. Heure à laquelle vous retrouvez la météo, les infos. Et puis ensuite, on enchaînera avec la maison. Et Christian PC qui me rejoindra. Vous le savez, le bricolage de la maison, c'est avec Christian. On évoquera la rénovation globale de la maison, des extensions pour télétravailler, mieux vivre la maison. Et bien sûr, vos questions, bricolage, maison, déco, tout à l'heure. Dans l'immédiat, le jardin. Patrick, la météo du jardinier dans quelques instants. Mais tout de suite, c'est Pierre que l'on accueille. Bonjour Pierre.
Oui, bonjour François. Bonjour Patrick.
Bonjour.
Bonjour Pierre, bienvenue.
Pierre des Alpes de Haute-Provence. Vous êtes où dans les Alpes de Haute-Provence?
Manosque.
Manosque, d'accord. D'accord. Et on vous écoute.
Oui, j'ai quelques oliviers, puis ces temps-ci, comme chaque année, donc il y a la mouche qui fait des ravages un peu. L'année passée, pratiquement 50% de des récoltes ont été bousillées par la mouche. Donc je voulais savoir s'il y avait un produit miracle. qu'est-ce qu'on pouvait faire pour anticiper cela?
Il faut oublier désormais l'idée du produit miracle. Dans la mesure où même si ça n'a jamais existé sur la comment pour la mouche de l'olive, malheureusement, on n'a plus rien pour traiter. Donc c'est le gros problème. Bon, donc il faut trouver des moyens à la fois préventifs, des moyens un peu alternatifs, comme on dit pudiquement aujourd'hui, pour essayer d'éviter les dégâts qui sont énormes. Parce que une mouche de l'olive, une seule, hein, ça peut pondre 400 œufs.
Wow.
Mais 400 œufs, ça les pond pas en un tas. Ça les pond un par un dans chaque mouche. Dans chaque olive, pardon.
Ah oui.
Donc vous imaginez, une mouche, 400 olives qui sont contaminées. Donc ça, et en plus, il y a plusieurs générations par an. Donc on est vraiment très, très, très embêté avec cet insecte. Alors bon, je ne sais pas si le produit attractif qui s'appelle Buminal et qui était homologué spécifiquement pour la mouche l'est toujours, du moins en culture d'amateurs. Alors, on est entre nous, je ne devrais pas dire ça, mais vous pouvez très bien demander, alors soit demander effectivement à un professionnel de traiter pour vous, ça c'est tout à fait officiel, ou vous rendre dans une coopérative agricole et acheter ce produit. Pour quelle raison, de toute façon, tout à fait louable, c'est que si tout le monde autour de vous traite les oliviers et que vous, vous êtes le seul endroit où ils ne sont pas traités, vous devenez un foyer d'infestation qui est aussi, je dirais, catastrophique, même 10 fois pire que le fait de traiter. Donc ce Buminal, qui est donc un produit attractif pour la mouche, on le pulvérise sur une bande, en fait, d'un mètre de large, de haut en bas, de la frondaison, côté sud-ouest. C'est très particulier, hein. Donc, on va mettre environ un quart de litre de cette solution par arbre. Et ça, il faut le faire à un moment assez frais de la journée, donc au petit matin. Et c'est pas le cas en ce moment, mais quand il y a eu une pluie de plus de 20 mm d'importance, eh bien, il va falloir refaire le traitement. Donc, en fait, dans une année normale, on fait 3 ou 4 traitements au Buminal entre juillet et octobre. Donc, il faut aussi respecter, bien évidemment, le délai de traitement avec la récolte qui est indiquée sur le produit. En général, c'est un minimum de 10 jours. Alors, ça, c'est une méthode, mais qui doit être complétée par le piégeage. Parce qu'il faut attraper un maximum de mouches et on fait des pièges avec du phosphate d'ammoniac. Une solution en mettant un ou deux pièges par arbre, mais ça il faut le faire dès le mois de juin. Donc lorsque les olives vont mesurer un peu plus de 1 cm et puis lorsque vous avez fait des captures de mouches. Parce que ça aussi on ajoute les pièges à phéromones, de manière à avoir une sorte d'alerte, de savoir que la mouche est là, et à ce moment-là, on met du phosphate de diammoniac tous les 10-12 jours avec ces pièges. Donc si vous faites tout ça, ça devrait donner des résultats. Moi, je vous conseille d'aller voir un site internet professionnel qui est extrêmement bien fait et qui s'appelle la Fidol, A-F-I-D-O-L. Ce sont les professionnels de l'olivier qui ont vraiment bien travaillé le sujet parce que c'est un problème pour eux. Et puis n'hésitez pas aussi localement à aller les voir ou aller voir des professionnels pour effectuer les mêmes méthodes de lutte qu'eux pour, encore une fois, ne pas devenir un foyer d'infestation.
Bien sûr. Ok.
Voilà, Pierre.
Merci beaucoup, Patrick.
Merci à vous. À très bientôt.
Très bonne journée à tous les deux. Merci, au revoir.
Il est quasiment 7h-10. Il est temps de retrouver la météo du jardinier, Patrick Miolan. Alors, c'est vrai que quand on regarde les cartes de Météo France pour les jours qui viennent, on se dit waouh, mais c'est toujours l'été.
Et ça sera toujours l'été pendant toute cette semaine, largement, même si on va avoir, on va dire, une déviation orageuse. Il est évident que les températures que l'on a actuellement, on vient de vous les annoncer, qui dépassent 30 degrés dans certaines régions, ça a tendance à favoriser les orages. Mais c'est pas là qu'il va y avoir les orages. Les orages vont arriver par l'ouest, et ça plutôt en fin de semaine. Donc, pratiquement pas de vent, plutôt du vent du sud, donc pas d'eau, du sec, et donc de l'arrosage nécessaire pour le jardin. C'est essentiel.
On arrose tous les combien actuellement ?
Nous, actuellement, on arrose notre jardin tous les 2 à 3 jours. Alors, sachant qu'un arrosage, quel qu'il soit, n'est jamais suffisant par rapport à une pluie. Je viens de parler d'une pluie de 20 mm. 20 mm, je vous rappelle, ça fait 20 litres par mètre carré. Ouais. Bah, comptez...
On met jamais 20 litres par mètre carré.
Bah, ça voudrait dire qu'il faut, sur un arroseur, par exemple, qui débite 600 litres à l'heure sur 100 mètres carrés, vous avez 6 litres en une heure. Il faudrait arroser 3 heures au moins pour avoir 20 mm.
C'est énorme.
Vous ne le faites pas. Vous allez arroser une heure, vous trouvez ça bien, c'est déjà pas mal. Mais voilà, c'est qu'un succès d'année, malheureusement. Donc les plantes, elles tiennent tant qu'elles peuvent. Alors n'oubliez pas surtout, avant l'arrosage, de passer un coup de binette ou de griffe pour décrouter la surface du sol si vous avez un sol qui est très compacté, parce qu'il faut que l'eau ne ruisselle pas mais pénètre à l'intérieur. Donc on sera toujours en
été. On arrose.
Et puis on sera toujours en été samedi prochain.
Voilà, et puis ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut au moins, j'allais dire, trafiquer dans le jardin, s'occuper, entretenir son jardin.
Alors attendez, un truc indispensable. Vendredi 18 septembre, ne jardinez surtout pas après 10h35 parce que la lune sera au périgée et ça, c'est une catastrophe, vous le savez bien.
Bien sûr. Allez, on enchaîne avec Josiane qui nous attend au 32-16. Bonjour Josiane.
Oui, bonjour Patrick, bonjour François.
Bonjour.
J'ai deux petites questions à vous poser. La première concerne les géraniums. Chaque année, ça fait des années que je mets des géraniums et ils commencent par bien fleurir et après plus de feuilles. En ce moment, ils n'ont plus de fleurs, pardon. Et la deuxième question concerne mes surfignales. Alors eux aussi, ils fleurissent beaucoup au début et après ils sèchent, ils commencent à devenir beige marron au centre et ils périclitent.
Vous habitez dans quelle région ?
Alors j'habite en Haute-Savoie et on est à 630 mètres d'altitude.
Ah oui, non, parce que sur les géraniums, lorsqu'ils fleurissent plus rapidement, en général c'est le papillon de géranium, mais je pense pas qu'il soit du tout dans votre région.
Non,
pour l'instant,
ils sont magnifiques, ils sont verts, ils sont beaux, mais ils n'ont pas de fleurs.
Oui, mais ça c'est parce que vous les arrosez trop.
Alors justement, je pense que je les arrose pas trop. Je sais que quand il faisait très chaud, je les arrosais tous les 3 jours, et quand il fait une chaleur normale, je les arrose une fois par semaine. Alors est-ce que c'est trop ?
Non. Ils sont bien exposés au soleil ?
Alors, ils sont exposés au soleil le matin et l'ombre l'après-midi, et deux autres sont exposés au soleil.
Bon, le géranium, donc le pélargonium, qui est une plante sud-africaine de la région du Cap, est une plante de plein soleil et de zones plutôt sèches. Il y a une troisième raison qui peut aussi bloquer la floraison, c'est d'utiliser des terreaux qui sont trop riches en azote et qui vous font, comme vous l'expliquez, des très belles feuilles au détriment des fleurs. Donc il faut quand même avoir un sol, je dirais, pas d'une richesse extraordinaire, parce que encore une fois, dans la région d'origine du pélargonium, les sols sont plutôt un peu pauvres, un peu style sol d'olivier. Donc, mélangez de la terre de jardin avec du terreau. Ne mettez pas trop d'engrais, ou du moins regardez que cet engrais ne soit pas trop dosé en azote. C'est la lettre N sur les compositions d'engrais. Et puis, pincez vos plantes. C'est-à-dire que la tige principale, vous pouvez la couper en haut, au-dessus d'une feuille, de manière à faire des ramifications, ça favorise la floraison. Et concernant les surfignières, moi, ma réponse, elle est la même. Je pense que vous n'avez pas un terreau de bonne qualité, que c'est un terreau qui se compacte assez rapidement, qui conserve trop l'humidité. Parce que quand les feuilles deviennent marron, il y a deux raisons. C'est soit trop, soit pas assez arrosé. Si c'est trop arrosé, ça devient marron parce que ça pourrit. Si c'est pas assez arrosé et que c'est très sec, comme cette année, par exemple, avec le vent qu'il y a eu, enfin, le vent toujours nord-est qu'il y a eu qui dessèche tout, eh bien là, on le voit, mais ça prend une texture un peu de papier.
Donc, voilà, c'est ça. Oui, c'est exactement ça. Oui, ils ont ces textures-là, oui.
Ben, vous êtes peut-être trop exposé au soleil. Au vent, pardon.
Très bien.
D'accord. Eh bien, merci beaucoup.
Merci, Josiane.
Merci beaucoup.
Et Patrick, on termine à 6h54 avec votre coup de cœur de ce samedi matin.
Mon coup de cœur, c'est la reprise des fêtes des plantes. On a été hyper frustrés ce printemps avec la Covid. Là, heureusement, ce week-end, vous en avez un peu partout. Il y a la fête de la tomate à la Bourg-Désir, c'est à Montlouis-sur-Loire. Vous avez le salon Rêve de Jardin qui est à Jouy-le-Moutier, juste à côté de Cergy-Pontoise. Vous avez les Journées des plantes de Guerlesquin dans le Finistère. Vous avez le Championnat de France de barbecue à Sainte-Marie-de-la-Mer. Donc, vous avez aussi dimanche la fête de la citrouille au potager du Rivaux à l'Éméré, c'est dans l'Indre-et-Loire. Donc, ça revient. Il y en a plein un peu partout. Regardez donc localement et faites-vous plaisir. Il va faire très très beau ce week-end. ça vaut le coup d'aller dans un jardin.
Bien sûr.
Voilà. Et puis s'acheter quelques petites plantes dont on a parlé ce matin.
Tout à fait. Et puis jeter un œil aussi sur New Jardin TV, tiens, pourquoi pas.
Ah oui, il y a de quoi faire.
Il y a de quoi faire. Hein. Patrick, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine. On sera là 6h-7h sur RMC.
Ça sera avec plaisir, jardinière. Je vous embrasse, ma petite jardinière aussi. Et je dis bonjour, monsieur Christian Pesset.
Et bonjour, monsieur Newlan.
Monsieur Patrick. Christian Pesset, comment ça va?
Bah écoutez, ça va plutôt bien.
On a pas mal de choses à dire ce matin.
Ah, oui, c'est un peu. C'est dense, hein.
C'est dense. Alors, le télétravail, on y goûte tous. Oui. Alors, soit contraint, soit avec plaisir, hein, tout dépend du métier qu'on fait, etc. Mais bref, on travaille à la maison, on est de plus en plus nombreux à le faire. Ça nécessite quand même des modifications de la maison.
Ah oui, on va carrément parler extension, puisque c'est au programme que de prendre un peu plus de mètres carrés dans sa maison. Alors on peut les prendre parce qu'ils existent déjà, le grenier, les combles,
oui.
Mais il y a des solutions aujourd'hui véritablement, même y compris clé en main, assez rapide pour avoir une sorte de studio de travail ou même
donc,
d'agrément.
Étendre les mètres carrés de sa maison, c'est ça,
carrés, voilà. Voilà. Oui, alors c'est pas tout à fait Algeco, mais ça existe. Il y a des formules modulaires. On en parlera d'une notamment qui est proche de cette solution. Et puis tout bêtement, construire 20 ou 40 mètres carrés supplémentaires.
Mais bon, est-ce qu'il faut un permis à ce moment-là?
On va en parler.
Parce que ça, c'est le grand débat.
Oui, hein, c'est un grand débat. Mais c'est pas vraiment très compliqué. Un permis de construire, c'est pas une galère forcément.
Oui, c'est une procédure à faire, etc. Mais on rentrera dans les détails tout à l'heure entre 7h et 8h pour la maison. On évoquera aussi la rénovation globale de la maison.
Allez, numéro 2, puisque j'en ai parlé la semaine dernière. Et là, on va s'intéresser un peu plus à la salle de bain, à la cuisine. On va voir que là aussi, il faut faut anticiper, là, hein, parce qu'on voit bien qu'on va vivre de plus en plus longtemps à la maison.
Allez, 32-16, l'appli RMC Direct Studio, météo info, et on est de retour, à tout de suite.